Chapitre 3. À travers la porte vitrée, Lloyd et Tapa observaient le père Drucker remontant l'allée en compagnie d'un officier. Détail singulier, le prêtre avançait en lui donnant le bras. Le Gurkha s'en voulut de n'avoir pas pris une précaution élémentaire. Dès leur arrivée au monastère, il aurait dû sortir son kukri de la boîte à outils, car cette arme, en principe, ne le quittait jamais. Eh bien, il fallait s'adapter. Faute de mieux, un couteau de cuisine planté au bon endroit peut également s'avérer redoutable. Le moine et son visiteur arrivèrent bras-dessus bras-dessous et pénétrèrent dans le parloir. « Permettez-moi, mes amis, de vous présenter le major Johann Drucker de la Wehrmacht. Eh oui, mon petit-fils, 36 ans déjà, ce qui ne nous rajeunit pas, comme disent les piliers de brasserie. Mon cher Johann, je te présente Monseigneur Da Silva, de la nonciature apostolique de Goa. « Ah, signora fala portugues ?» demanda l'officier allemand avec entrain. « Ravi de vous rencontrer. J'ai passé un an à Lisbonne. » Christen se lissait la barbe et semblait ne pas avoir entendu. « Et voici son chauffeur éthiopien, » reprit le moine. « À moins qu'il ne soit somalien ou chinois, je ne sais plus. N'ayez crainte, mes amis, Johann est un homme en qui vous pouvez avoir toute confiance. Je suis heureux de le voir. » Mais j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. » Le major expira une longue bouffée de sa Johnny. « Je pars demain soir pour l'Égypte, mais chut, secret militaire. Dès que j'ai appris la nouvelle à Berlin, j'ai sauté dans ma voiture pour dire adieu à mon grand-père. » Son visage se figea. Les parents de l'officier étaient morts sous les bombardements de Cologne quelques mois plus tôt, et son grand-père moine était désormais le dernier lien avec son passé. Compte tenu de la situation, poursuivit l'arrivant, j'ai éloigné ma femme et mes trois filles au sud de l'Autriche, du côté de Mittenwald, où j'ai des amis sûrs. Si la situation s'aggrave, elles passeront en Italie. Si j'en crois la radio et la presse italienne, intervint Christen, les Allemands marquent des points en Égypte. Avec un peu de chance, vous allez passer Noël au Caire. Le major secoua la tête. C'est aussi ce que disent les journaux ici, concéda-t-il. À la Wehrmacht, beaucoup de gens sont cependant persuadés du contraire. Rommel ne passera pas. Où est la vérité? Le moine, qui s'était absenté un instant, revint de la cuisine, un verre et une nouvelle bouteille à la main. Ils trinquèrent avec entrain. Rommel est un génie militaire, poursuivit l'officier, et qui plus est, un honnête homme. Le problème, c'est que pour faire avancer un tank, il faut du carburant. Les panzers ne sont pas des chameaux, ils ont besoin de boire souvent. Quant au front russe, la situation est très mauvaise, mais Hitler, là aussi, s'entête. Le major avala son verre d'un trait avant de poursuivre. « De toute façon, je n'y connais rien, » avoua-t-il. « Je suis major, mais major d'opérette, avec un scalpel en guise de baïonnette. Mon grand-père a oublié de vous le préciser, je suis chirurgien. Ma spécialité, c'est le côlon. » Bref, je bricole, je coupe, je fais les dérivations, je purge les tuyaux, je rafistole. Il faut être fou pour faire la guerre. Avec les mines, c'est le carnage. Bon, notez que mes informations sont puisées aux meilleures sources. Même les officiers sont bavards sur un lit d'hôpital. Il donna un coup d'œil à sa montre. Je vais passer la nuit ici. Je reprendrai la route de Berlin au champ du coq. Mais je ne parle que de moi. Veuillez m'en excuser. « Ainsi donc, vous venez de Goa. Que diable venez-vous faire ici, alors que vous pourriez profiter du soleil sous les cocotiers de Ford Aguada ?» Le moine intervint. « Ces messieurs vont s'occuper des prisonniers de guerre indiens. Il y en a beaucoup en Allemagne, paraît-il. »« Exact, grand-père. J'en ai rencontré un régiment l'autre jour dans un camp du côté d'Annaburg, où j'animais un stage. On ne semblait pas les traiter comme des prisonniers, d'ailleurs, ce qui m'a surpris. » Le père Drucker se retourna vers Christen. Johann ne vous a pas dit l'essentiel. Il fait partie d'un groupe d'officiers catholiques hostiles aux fureurs. Eh oui, je sais que les Anglais croient que tous les Allemands sont des crétins blonds aux yeux bleus incapables de réfléchir. Eh oui, pensa Christen. Et c'est bien cette image que donnaient d'eux les journalistes et les écrivains anglais. Dans le roman de Jones, Bagels Defies the Swastika, qu'il venait de lire à Rome, ils paraissaient si stupides que le lecteur les prenait en pitié, ce qui n'était sans doute pas le but recherché par l'auteur. L'Anglais décida de faire confiance à son tour. Il avait besoin d'informations précises sur Berlin, et cet homme pouvait sans doute les lui donner. « Une fois sur place, vous vous débrouillerez », avait maugréé le colonel Barnes. « Facile à dire quand on est dans un fauteuil, de l'autre côté de la Manche. » « Ma mère était allemande, poursuivit Christen, en reprenant l'accent bavarois qui lui était naturel, et mon père anglais. Pour tout compliquer, je suis né en Inde, ce qui fait de moi un Britannique. Voilà, nous avons une mission à remplir, mais nous ne sommes pas là pour tuer des Allemands. » Le chirurgien de la Wehrmacht éclata de rire. « C'est donc déjà le débarquement, en somme. Enfin une bonne nouvelle. Moi, hélas, je ne serai sans doute pas de retour en Allemagne avant des mois. » D'ici là, les Anglais auront traversé le Pas-de-Calais. Ma foi, vous serez surpris de le découvrir, la plupart des Allemands n'aiment pas Hitler. Mais qui serait assez fou pour s'opposer à lui? Le sacrifice, la morale, la civilisation, la démocratie, c'est bien joli dans les discours. Mais moi, j'ai une femme et des filles, et c'est à elles que je dois penser d'abord. En Allemagne, tout le monde surveille tout le monde, et la délation est devenue une vertu. « Ne me dites rien sur votre mission. Je pourrais être tenté d'aller tout raconter à la Gestapo. » Christen lui tendit son paquet de Jubeck. L'œil du major se mit à briller. Cela faisait des mois qu'il devait, le plus souvent, se contenter de Johnny's et de Rothhandel. Prenant tout son temps, il alluma une cigarette et en tira une première bouffée avec volupté. « En tout cas, votre déguisement est un coup de génie, » reprit-il au bout d'un moment. « Les nazis adorent les uniformes, et ils ont besoin du Vatican. » Pie XII prépare une encyclique hostile à Hitler, intervint le moine. C'est du moins ce qui se dit dans le milieu. « On en parle à Rome, en effet, » confirma Christen. « Le texte serait en chauffe, mais il y a un problème de virgule. À quoi bon se presser? 1 million de morts, en plus ou en moins, quelle importance? L'Église a l'éternité pour elle. Ce qui n'est pas mon cas, hélas. » « Je n'entends pas rester en Allemagne plus de quelques jours, et vous pouvez m'aider, major. » À son tour, le Britannique alluma une Jubeck. « Puisque vous vivez à Berlin, poursuivit-il, vous devriez pouvoir me conseiller un hôtel discret. C'est un de mes gros sujets d'inquiétude. Pas question pour nous de descendre à l'Annonciature, et encore moins de dormir dans la voiture ou sous les ponts. » Le major secoua la tête. « À l'hôtel, vous êtes fou. Vous seriez aussitôt repéré. Il n'y a pas un seul hôtel discret dans toute l'Allemagne. Non, il y a une meilleure solution. » Il sembla réfléchir un instant. « Je vais vous donner le double de mes clés. J'habite en pleine campagne au sud de Berlin, un endroit isolé. Je vous ferai un dessin tout à l'heure. Puisque je pars pour l'Afrique, je laisserai mon Opel au garage. En cas de besoin, vous pourrez l'utiliser, car votre carrosse me paraît bien voyant. Je laisserai les clés sur la table de la cuisine. En partant, soyez assez aimable de briser la grande vitre de la buanderie, comme si la maison avait été victime de rôdeurs. On ne sait jamais, je peux être rappelé à Berlin plus tôt que prévu. Vous m'offrirez une Bentley après la guerre. J'aime bien celle de 1932, la 8 litres, bien sûr. Bien, comptez sur nous. En attendant, nous serons à Fribourg demain soir et à Berlin dans la journée du 8. « Très bonne date, » nota le père Klaus. « Le 8 septembre, c'est la nativité de la Vierge. »« Excellente date d'anniversaire, en effet, » confirma l'anglo-indien, « puisque c'est aussi celle de Richard Cœur de Lion, et même, j'allais l'oublier, celle d'un certain Christen Lloyd. » Il éclata de rire. « Eh oui, j'aurai 47 ans ce mardi. Je ne pensais pas fêter cela à Berlin. » Le moine se leva. « À Berlin ?» « Non, non, c'est ici même et ce soir que nous allons fêter cela tous ensemble. Ah, mes amis, je vous promets un somptueux dîner d'anniversaire. Bon, je vous laisse entre hommes et m'en vais de ce pas tordre le cou à mes deux derniers poulets. » Carlyle. En ce petit matin du lundi 7 septembre, Joyce, qui vivait à Crosby chez une tante éloignée, fut comme d'habitude la première à arriver à Paternoster. Elle déposa son parapluie détrempé à l'entrée et s'ébroua. Une fois dans la pièce, son premier geste fut d'allumer le réchaud à gaz pour la théière. Après quoi, comme tous les jours, elle ouvrit les fenêtres face à la cathédrale et vida les cendriers. Lorsque le colonel officiait seul dans son bureau, l'atmosphère était déjà irrespirable. Et quand Jackson se trouvait là aussi, il aurait fallu porter un masque à gaz. À eux deux, ils éclusaient 5 paquets par jour. Ce qui contraignait Joyce à passer ses vêtements sous l'eau du robinet tous les soirs et à prendre un shampoing tous les 2 jours. Cela ne la gênait pas, bien au contraire. Quelques jours plus tôt, le 26 août, elle avait fêté ses 25 ans, et cela la grisait de travailler avec des hommes, même si le quartier général, au fil des mois, ressemblait de plus en plus à une usine de produits chimiques. Elle allait se servir sa première tasse de thé quand le téléphone sonna. Surprise, elle décrocha aussitôt. Très peu de gens connaissaient l'existence de Paternoster, et même dans la journée, les appels étaient rares. À 8 heures du matin, il se comptait en 1 an sur les doigts d'une main. C'était Downing Street. Le cœur de Joyce se mit à battre. Elle espérait qu'elle aurait un jour la chance et l'honneur de tomber sur Winston Churchill. Il n'en fut encore rien ce matin-là. Il s'agissait de l'un de ses conseillers, Sir Archibald Smith Bolsonberry. Le message fut bref. Barnes et Jackson était convoqué dans l'après-midi par le Premier ministre, après la sieste, ce qui restait vague. « Priorité absolue », ajouta le haut fonctionnaire. « Des ordres ont été donnés. Un hurricane attend le colonel à Glasgow. » Puis l'homme précisa, « Vous lui direz que c'est pour Bushido. »« Des problèmes, monsieur ?» demanda Joyce. L'homme eut un rire d'outre-tombe. « Ma foi, oui, miss, c'est le moins qu'on puisse dire. » Et il raccrocha. Fribourg-en-Brisgau. Un coup de téléphone tout aussi laconique réveilla Elisa Wagner ce même matin du 7 septembre. Une voix inconnue lui fit savoir que le livre sur Platon qu'elle avait commandé venait d'arriver et qu'elle pouvait passer le prendre à partir de 15 heures. Ce qui signifiait que les envoyés spéciaux de Londres étaient à pied d'œuvre en Allemagne et l'attendraient comme prévu dans la cathédrale au pied de la chaire. Enfin, pensa-t-elle. Depuis qu'elle avait tué Ulrike von Naumann, elle hésitait à sortir. Certes, la gazette locale s'était réjouie d'informer ses lecteurs que la meurtrière, cernée par la police, avait été abattue. Mais devait-on jamais faire confiance à un journal? Elisa en était persuadée. Même en temps de paix, la presse est toujours aux ordres. Du pouvoir, des partis politiques, des religions établies, des réseaux d'influence, des intérêts ou des fantaisies de ses propriétaires et actionnaires. Avec Hitler, il est vrai, l'État était allé plus loin, en s'octroyant le monopole absolu de l'information. Dès lors, toute la presse parlait d'une seule voix, celle du ministère de la Propagande, et les journaux étrangers étaient interdits. Max Amann, qui avait fait la Grande Guerre aux côtés de Hitler, contrôlait tout, et Goebbels donnait le ton. Dans la pratique, les journalistes étaient devenus les fonctionnaires et les turiféraires du régime. L'annonce que la meurtrière d'Ulrike von Naumann était morte pouvait fort bien être un piège que lui tendait la police, avec la complicité automatique des journalistes, si tant est que ce titre pût encore leur être donné. Le risque qu'un témoin pût la reconnaître dans la rue était certes minime, mais il existait. Elle avait jusque-là limité ses sorties, brûlé sa perruque et même jeté dans la Dreisam sa vieille bicyclette patrue. Elle s'en sépara avec tristesse, car c'était un souvenir d'enfance. Son père journaliste, un vrai celui-là, la lui avait achetée à 10 pour ses 20 ans, lors d'un merveilleux voyage en Bretagne. Dès qu'elle eut reposé le combiné du téléphone, Elisa sauta du lit et se précipita vers la salle de bain. Cela faisait 3 jours qu'elle ne s'était pas lavée. 3 jours qu'elle fêtait seule, en levant le coude, la mort d'Ulrika. Elle se ferait belle pour recevoir ses visiteurs. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut envie d'entendre de la musique. Elle choisit l'Alléluia du Messie de Handel, le musicien préféré de Magda, et le posa sur la platine de son gramophone. Berlin. Né dans une île de la Baltique, Rudolf Breuer avait gardé sa mentalité d'insulaire. Il défendait son bout de terrain, ses plates-bandes et ses prérogatives avec la rage d'une chatte sauvage protégeant ses petits. Par ailleurs, orphelin de père et fils unique, il avait, comme sa mère, un seul centre d'intérêt, lui-même. Les autres comptaient en fonction des plaisirs ou des désagréments qu'ils lui apportaient. Pour lui, Martin Wurtz n'était pas un être humain, mais un simple nom sur un dossier, son dossier, celui que le grand Himmler lui avait confié. Pas question de laisser quelqu'un d'autre empiéter sur son territoire. Le Reichsführer en personne lui avait téléphoné ce matin-là de son lointain château pour le prier, raison de sécurité, de ne plus lui adresser le moindre rapport écrit. « J'aurai bientôt une excellente nouvelle pour vous », avait ajouté Himmler. Une excellente nouvelle ? Ce ne pouvait être que l'intronisation de Breuer dans la SS, vite accompagnée sans doute de la promotion si attendue qui correspondrait enfin à son haut niveau de responsabilité et de compétence. Oberscharführer, peut-être. L'avantage de la SS était que tous les grades se terminaient par deux syllabes prestigieuses, Führer. Du caporal-chef au général d'armée, du Rottenführer à l'Oberstengruppenführer, ils avaient ce titre magique en commun avec Adolf Hitler, le Führer suprême. Cet honneur insigne n'existait pas dans la Wehrmacht, l'armée régulière privée de tout lustre. Or, depuis quelques jours, Breuer savait qu'une usurpatrice empiétait sur son territoire. Une certaine Trudy Schneider, dont le nom n'apparaissait pas dans les archives. Qui était ce passe-lacet ambulant? À quel service de renseignement appartenait cette sans-grade? La jeune femme aussi suivait Martin Wurtz, risquant par là même de compromettre l'enquête de Rudolf Breuer. Celui-ci s'apprêtait à rédiger une note à ce sujet, lorsque le coup de téléphone de Himmler l'arrêta dans son élan. Déstabilisé, il reposa son stylo et décida de prendre le taureau par les cornes. S'il voulait se débarrasser de cette Trudy Schneider, il fallait changer de rythme et de style. Fort bien, c'est donc sur le terrain, comme disaient les policiers, qu'il mènerait désormais son enquête. Il quitta son bureau et décida de se rendre à pied à l'hôpital où Martin Wurtz avait été opéré. Le docteur Hoffmann le reçut avec courtoisie. C'était un homme d'une quarantaine d'années qui aurait pu figurer sur la couverture de Signal. Un blond aux yeux bleus. Breuer décida d'abattre ses cartes. « Docteur Hoffmann, je suis envoyé par le Reichsführer Himmler pour vous interroger sur un de vos patients, Martin Wurtz. » Le chirurgien resta de marbre. Il avait tout de suite noté que l'enquêteur était bègue et savait comment lui faire perdre ses moyens. Il se mit à tourner du doigt un des boutons de sa blouse blanche. « J'aimerais savoir de quoi souffre M. Wurtz ?» demanda Breuer en rougissant. Il avait soudain du mal à respirer. Hoffmann hocha la tête. « Dois-je vous rappeler, monsieur comment, au fait ?»« Docteur Rudolf Breuer. »« Ach so, docteur Breuer. Nous sommes entre confrères, en quelque sorte. » Fort bien, je n'en suis que plus à l'aise. Docteur Breuer, pour vous rappeler que mes activités sont couvertes par le secret médical. Le médecin continuait de jouer avec son bouton. Pas en temps de guerre, bégaya son visiteur. C'est une nouveauté intéressante dont personne ne m'a jusqu'ici informé, remarqua Hoffmann. Cela dit, vous avez de la chance. Ça n'a rien de très confidentiel puisque c'est visible à l'œil nu. « Monsieur Wurtz a été opéré de la main droite. Et ce n'est un secret pour personne, cher docteur Breuer, qu'il souffrait de la maladie de Dupuytren. » Pressentant que son interlocuteur n'aimait pas le tabac, le médecin alluma une attica et en tira une longue bouffée. Breuer fut pris d'une quinte de toux et dut desserrer le col de sa chemise. Tout le monde, poursuivit le chirurgien, sait que cette maladie ne présente aucune gravité. Mais cette rétraction de l'aponévrose palmaire peut devenir invalidante. Les doigts se rétractent et des nodules se forment dans la partie supérieure de la paume. C'est une maladie assez rare dont les causes sont inconnues. Vous savez comme moi, sans aucun doute, très cher docteur Breuer, que le baron Guillaume Dupuytren était un grand chirurgien français et qu'il soigna Louis XVII et Charles X. À Limoges, il fut le premier à... Breuer l'arrêta d'un signe. Ce Hoffmann l'irritait avec son tabac, son érudition et son ironie facile. C'est Martin Wurtz qui m'intéresse, pas votre baron Dupuytren. Eh bien, il a été opéré, je vous l'ai déjà dit. Mais il est revenu vous voir deux ou trois fois. Quoi de plus normal après une intervention? Celle-ci a très bien réussi, d'ailleurs. Dans quelques semaines, la gêne aura disparu. Je n'ai rien d'autre à vous dire, docteur Breuer. Je ne suis pas le médecin traitant de M. Wurtz, si tant est qu'il en est un, car sa santé me paraît excellente. Breuer sortit une fiche de sa poche. Un instant. Vous connaissiez Martin Wurtz avant cette opération? Hoffmann marqua un instant de silence. Si Breuer lui posait la question, c'est qu'il connaissait la réponse. En effet, depuis une vingtaine d'années même. C'est pourquoi il m'a fait confiance. Rien que de très normal. Breuer regagnait du terrain. Il respirait mieux à nouveau. Et comment l'avez-vous connu? À Berlin. La question n'était pas où, mais comment? Le médecin resta silencieux. Breuer frétillait d'aise. Allons, docteur, la mémoire vous fait défaut? Je vais vous la rafraîchir. Vous vous êtes connu en 1923 à la revue Der Hellasbot. Oui, le messager grec. Breuer était bien informé. C'était l'époque où tout semblait possible, où Hoffmann sortait souvent avec Martin Wurtz et deux lesbiennes, Magda Brack et Elisa Wagner. Comment diable avaient-ils tous été assez bêtes pour croire, dans les années 20, que ce vent de liberté allait durer, que la nature humaine, en somme, pouvait changer? Hoffmann se leva d'un bond. « Excusez-moi, docteur Breuer, je suis attendu au bloc opératoire. » Le protégé de Himmler n'était pas mécontent de son entrevue. Le médecin cachait quelque chose. « Merci pour votre très précieuse collaboration, docteur Hoffmann. » Il s'inclina et disparut. Une demi-heure plus tard, de retour dans son bureau, Rudolf Breuer rédigea un long rapport. Cette prétendue maladie de Dupuytren cachait quelque chose, mais quoi? Le fichier confirmait que le médecin était membre du parti depuis 1930. Mais les traîtres, c'est bien connu, sont toujours les premiers à payer leurs cotisations. Il faudrait en savoir plus. Puisque Himmler ne voulait plus le rapport, il conviendrait d'archiver le compte rendu de cette visite. Breuer relut son texte, ajouta quelques virgules. Depuis qu'il avait appris que le docteur Goebbels écrivait à l'encre verte, lui aussi s'y était mis. Très important, l'encre. Certes, la verte était un peu plus chère que la noire, mais le jeu en valait la chandelle. Ce choix vous posait un homme. Le conteur de trombone ouvrit le placard qui lui servait de fichier et y glissa sa page d'écriture à la lettre B. B comme Brutus. Reggio di Calabria. Pietro, le neveu de Monseigneur Borghese, avait trop parlé à Rome, et sa copine le dénonça à la police. Il fut arrêté ce 7 septembre à la gare de Reggio di Calabria. Dans un louable souci d'économie, le jeune Sicilien s'était contenté de prendre un billet pour Naples. Jouant de malchance, il tomba sur un contrôleur stagiaire, lequel sauta sur l'occasion pour se faire mousser. Des poursuites allaient être engagées. Des carabinieri se présentèrent à la gare sans enthousiasme excessif, vérifièrent l'identité de l'individu arrêté et constatèrent qu'il s'agissait d'un certain Pietro Borghese, celui-là même que la police de Rome recherchait depuis 24 heures pour vol. Et pas n'importe quel vol, une voiture du corps diplomatique, une hispano-suiza du Vatican. Berlin. Contrairement à Christian Lloyd, Subhas Chandra Bose n'avait pas été élevé par les jésuites. Se lever tôt n'était pas dans ses habitudes. Il était encore au lit ce matin-là quand le téléphone sonna. En décrochant, il regarda sa montre. Il était presque midi. C'était sa femme qui l'appelait d'Autriche. La ligne était mauvaise, mais peu importait puisque les nouvelles étaient bonnes. La grossesse se passait bien. Émilie avait regagné Vienne, ville plus sûre que Berlin, surtout depuis que les Alliés lançaient des raids aériens sur l'Allemagne. L'Autriche était loin, et il était a priori peu vraisemblable que les Anglais osent s'y aventurer, alors que le nord du Reich payait un lourd tribut. Personne ne connaissait le nombre des victimes, mais il devait être considérable. Pour leur raid sur Cologne et Essen le 30 mai et le 1er juin, les Britanniques avaient déployé des centaines d'appareils. 1942 serait finalement une bonne année, pensa Bose en raccrochant. Devenir père serait une grande joie, car y a-t-il pour un Indien devoir plus sacré que de donner la vie? Mourir était sans importance, à condition d'avoir eu un enfant avant de partir. Comme Nehru, Bose se disait rationaliste et se moquait des superstitions, mais il croyait à certaines valeurs hindoues. Avoir reçu le don si précieux de la vie créait une dette. Il fallait continuer la lignée. Sans trop y croire, le chef indien espérait qu'il serait encore en Europe à la naissance de son enfant. Les choses cependant s'accéléraient. Bose allait bientôt partir pour Rome, d'où il s'envolerait pour l'Asie. C'est là, à Tokyo, à Singapour ou aux îles Andaman, qu'il lancerait l'assaut final pour la libération de l'Inde. Son ami journaliste Nambiar resterait à Berlin. Bose savait qu'il pouvait lui accorder une entière confiance. Il avait eu beaucoup de mal à le décider. Un voyage en France avait même été nécessaire en août 1941, car le journaliste s'était installé à Foix, dans l'Ariège, et il ne tenait guère à retourner en Allemagne. Nambiar détestait le national-socialisme, mais, après plusieurs mois de réflexion, il avait pourtant rejoint Bose à Berlin au début de l'année 1942. D'autres intellectuels indiens étaient déjà là. L'heure venue, il serait facile de former avec eux le premier gouvernement de l'Inde libre. D'ici là, Chandra Bose le savait, les Anglais seraient prêts à tout. La BBC, aux ordres de Churchill, n'avait pas hésité le 25 mars à annoncer qu'il était mort dans un accident d'avion. Et c'étaient ces mêmes Anglais qui critiquaient Goebbels et ses mensonges. Ces pratiques les déshonoraient. Bose sortit du lit. La journée serait longue. Il lui faudrait réfléchir à son prochain discours, celui qu'il prononcerait à Hambourg 4 jours plus tard pour l'inauguration du centre indo-allemand. Puis il partirait pour Rome. Rien ne pressait. Les Anglais, de toute façon, avaient déjà perdu la guerre. L'Inde indépendante naîtrait à quelques mois près, en même temps que son enfant. Le soleil brillait dans le jardin, mais Bose ne serait heureux que le jour où se lèverait sur l'Inde un soleil plus brillant encore, celui de la liberté, Azad Hind.